Bonsoir, il est 20h, vous êtes sur Radio Lodev. C'est l'émission du bruit dans les feuilles, l'émission mensuelle de l'association Pays-Arbres. Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir.
Et oui, on est en petit numéraire dans le studio aujourd'hui. Il y a Raphaël et moi-même, Tanguy. C'est l'été, les paysans sont au champ, les ouvriers agricoles aussi.
Les étudiants étudient.
Les étudiants étudient et finalisent le passage du baccalauréat. Et puis, ben voilà, c'est officiel, c'est le jour le plus long aujourd'hui. Vous êtes à la veille du solstice, enfin juste avant la nuit du solstice. La plus petite nuit de l'année, et du coup, ça va être un peu la thématique qui va conduire toute l'émission aujourd'hui. Ça va être le soleil. On va beaucoup vous parler du soleil aujourd'hui.
Et ben voilà, commençons. Et alors, on va parler... Aujourd'hui, pas d'un arbre du mois, mais d'une herbe. C'est ça, non? Le millepertuis, c'est une herbe?
C'est ça, pour changer un peu les habitudes, j'avais envie aujourd'hui de faire la chronique d'un arbre qui n'a pas réussi. Parce que finalement, toutes les plantes annuelles ou bisannuelles, on se rend compte quand on étudie la botanique d'une manière générale, et en tout cas d'une manière planétaire, qu'il y a d'autres endroits sur la planète où des plantes de la même famille s'expriment par l'arbre. Parce que finalement, c'est une espèce de quintessence du végétal, l'arbre, et quand la plante peut aller jusqu'à cet état-là, elle y va. C'est comme ça qu'ici on connaît par exemple des petites euphorbes qui ont l'air de rien et qui sont des plantes annuelles ou plutôt bisannuelles. Le cycle s'étend sur 2 ans, et ben dans la famille des euphorbacées, si vous allez sous les tropiques, vous allez trouver des arbres qui font partie de la même famille.
C'est ce que nous avait dit notre cher ami et cher parrain Francis Allais dans le premier événement de la petite fête de l'arbre. Il avait parlé de ça, du fait que l'arbre connaît son explosion de croissance et d'existence sous les tropiques, ce qui fait que, enfin, lui expliquait sa fascination pour les arbres des tropiques. Voilà. Et un peu moins pour les arbres de chez nous, qui sont un peu de vulgaires petites plantes.
C'est des petites plantes, mais qui sont suradaptées à un climat qui est beaucoup moins favorable au végétal. Ça, c'est une chose qu'on dit souvent, mais l'optimum végétatif, on l'atteint avec le cumul de la chaleur et de l'humidité. Et finalement, ce cumul de chaleur et d'humidité, dans nos régions méditerranéennes sèches, c'est assez bref, hein, parce que justement, là, vous pouvez le sentir depuis quelques semaines, la sécheresse commence à s'installer, et pour le végétal, c'est pas du tout son état premier, c'est en tout cas pas là qu'il peut s'exprimer dans son maximum. Et donc, on vient de vivre le plus ébouriffant et excitant de la vie végétale en 2-3 mois, là. L'ensemble du végétal s'est exprimé quasiment à son maximum, et maintenant, on va aller plutôt vers la maturation des fruits et vers la fin de ce cycle, mais c'est un petit peu empêché par la sécheresse estivale. Sous les tropiques, il n'y a pas cette problématique-là. Et puis, il n'y a pas une deuxième problématique qui est propre à nos climats aussi, qui est le gel. Et qui fait qu'effectivement, dans beaucoup de familles de plantes, l'expression végétale est plus proche de l'arbre quand on est près des tropiques. Voilà, c'était un peu ma blague pour introduire la plante du jour, de dire que c'était un arbre qui n'avait pas réussi.
Petit mais costaud, quoi.
Mais parce que c'est... Voilà, vu qu'on est le 21 juin, je pouvais pas... Enfin, j'ai tout de suite pensé à cette plante, c'est le millepertuis. Le millepertuis, justement, si vous avez un petit peu l'usage de vos chemins, il y en a plein au bord des chemins, tout le temps. Moi, j'en vois partout du millepertuis. C'est une plante assez élevée, avec des fleurs jaunes, comme des petits soleils, et on l'appelle millepertuis, parce que quand vous regardez la feuille au soleil, on la voit comme complètement percée, comme si un façonneur fou avait percé de 1000 petits trous chaque petite feuille du millepertuis.
La dentelle.
C'est une vraie dentelle, et puis de chaque trou, il y a une espèce d'exudat un peu rouge que ceux qui se soignent ou qui utilisent les plantes pour se soigner connaissent bien, parce qu'on en faisait un remède que j'ai envie d'appeler de mamie, mais sans que ce soit péjoratif, hein. Mes excuses à toutes les mamies. Je parle du savoir et de la mémoire, mais on en fait une huile qui est rouge, elle est fameuse parce qu'elle est rouge. Vous cueillez donc les sommités fleuries du millepertuis à midi, parce que c'est vraiment l'essence du soleil qu'on récolte avec le millepertuis. Et ces fleurs, vous les installez dans un bocal, dans de l'huile d'olive que vous avez préparée avec les 3 oliviers de votre jardin. Vous avez pressé vous-même, voilà. Vous mettez ça dans un petit bocal et vous mettez les fleurs et vous exposez ça au soleil pendant 15 jours, 3 semaines. Et l'huile va prendre une teinte rouge vif, hein. C'est impressionnant, l'huile de millepertuis. Il ne vous reste plus qu'à la filtrer pour obtenir une huile qui est absolument formidable pour les soins de la peau et surtout la brûlure du soleil.
Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Tu dis que sur les feuilles, on voit les exudats rouges, mais en fait, on cueille les fleurs. Les feuilles, on les utilise pas, du coup ? Tu vois ce que je veux dire ?
Peut-être ai-je dit une bêtise sur les exudats rouges des feuilles ?
Attention, vérification.
Bah oui, je vérifie, parce que là, si je commence à dire des bêtises au micro... Parce qu'il faut pas croire, hein, quand on prend un micro, c'est pas forcément qu'on est autorisé. Hein. Il faut vérifier toutes les informations qu'on vous donne. Hein. Faites attention à la parole unique, elle est jamais bonne. Hein. Il faut doubler, tripler les informations. Surtout si on parle de se soigner par les plantes. Ne croyez pas comme ça à la voix venue de votre poste radio, juste parce qu'elle vient de votre poste de radio, quoi.
On va faire du fact-checking, comme on dit dans les grandes radios. Attention, tic-tac, tic-tac. Bon, ben voilà, hein, c'était simplement... Les propriétés sont bel et bien existantes, mais après, c'est d'où est-ce qu'on les prend ? Est-ce qu'on prend les feuilles ? Est-ce qu'on prend les fleurs ? Est-ce qu'on prend les deux ?
Non, je me suis trompé, c'est pas sur les feuilles que c'est dans la description, j'ai fait un amalgame. Le sucre résineux et rougeâtre remplit les glandes noires du calice et des pétales. Donc c'est bien dans la fleur qu'on retrouve ce sucre rougeâtre et non pas sur les feuilles.
Bravo.
Autant pour moi. Merci Raphaël pour...
Je t'écoute, t'as vu ?
Pour ton écoute attentive et correctrice quand il faut. Voilà, donc ça c'était pour le millepertuis. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette huile ? On s'en sert essentiellement pour soigner justement les coups de soleil. Alors c'est une plante à double sens parce que elle est à la fois c'est un soin donc pour les brûlures et aussi pour voilà pour les soins de la peau d'une manière plus globale, mais elle est aussi photosensibilisante.
Donc attention.
Donc ça veut dire que si vous vous soignez avec l'huile de millepertuis, il faut pas derrière vous réexposer au soleil. Donc moi cette plante elle me donne vraiment l'impression d'avoir mis le enfin elle nous donne la possibilité de capturer le soleil et de le mettre dans un pot et de faire cette huile rouge donc qui est assez connue mais aussi bien pour quand vous avez des coups, des bleus, enfin voilà, c'est un remède aussi pour les rhumatismes.
Et en parlant de soleil, moi j'ai entendu dire aussi que le millepertuis ramenait du soleil dans la tête des gens qui sont un peu dépressifs, tristounets. On s'en sert aussi comme ça, non ?
Alors, ça se dit. Alors là encore, je prends encore plus de gants. On donne à cette plante une vertu d'antidépresseur. En sachant que si vous la consommez en infusion, d'une part, comme beaucoup de drogues, c'est un toxique. Il faut savoir que bon, l'histoire du toxique, c'est une histoire de dosage, hein, mais on peut utiliser la plupart de ce qu'on fabrique et les plantes à condition de les doser correctement. Donc en interne, c'est-à-dire si vous avalez cette plante ou des préparations d'infusion de millepertuis, faites attention à la dose parce que c'est une plante forte et toxique. Et puis donc du coup, on lui dit qu'effectivement, pendant l'hiver, quand vous manquez d'exposition au soleil, le millepertuis vous ramène un peu de soleil au cœur de votre hiver dépressif et vous pouvez du coup mieux passer la saison.
La saison
sombre.
Grise.
Voilà, mais ça a été très, comment on dit...
Galvaudé.
Non, pas galvaudé, c'est pas ça que je voulais dire, mais il y a des gens qui se sont écriés que c'était dangereux de prendre du millepertuis, qu'il valait mieux prendre du Prozac. Enfin bon, voilà, je veux pas du tout... voilà, je suis pas médecin, donc je vais pas faire des... Je ne vais pas vous donner des posologies et des traitements, mais néanmoins, c'est une plante qui a été entendue longtemps pour ça, c'est-à-dire ce petit soleil qu'on récolte à la Saint-Jean, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, de préférence à midi, si la pluie ne vient pas contrecarrer vos plans, sinon reportez-les au lendemain, elle vous amène un peu de soleil au cœur de votre hiver. Voilà, c'est à cette découverte-là que je vous invite. Allez donc vous promener sur les chemins, à l'ombre des grands arbres, parce que par le temps qui fait... c'est appréciable et vous trouverez sûrement, pour peu que le chemin soit assez large, des plants de millepertuis sur le côté. Voilà, c'était pour la chronique l'arbre du mois, un arbre qui n'en est pas un, le millepertuis.
Mais il faut pas trop lui dire, il va se vexer. On continue et on passe au dicton du mois, notre fameux dicton qui dit aujourd'hui, s'il pleut en juin, le jardinier ronge son poing, parce qu'il y a fort à faire en juin.
Et oui, il y a tellement à faire que tous nos amis travaillant proche de la terre n'ont pas pu venir au studio aujourd'hui parce qu'ils travaillent jusqu'à la nuit et qu'on n'y est pas encore. Du coup, c'est pour ça que j'avais sélectionné ce dicton en disant « s'il pleut en juin, le jardinier ronge son poing ». On pourrait dire s'il pleut en juin, le jardinier peut enregistrer à la radio. Sinon, il sera pas
dans
là.
Dans son jardin.
Non, j'ai pas vraiment de commentaires à faire. S'il pleut en juin, le jardinier ronge son point. Il y a beaucoup de choses à faire au jardin aujourd'hui. Tous les exploitants agricoles le savent bien. Et donc, c'est sûr que les jours de pluie, on est bien obligé de faire une pause. Mais enfin, c'est pas désagréable. Et puis là, la pluie, elle va être bienvenue. Ça fait déjà une vingtaine de jours qu'on chauffe au-delà des 30 degrés dans le bassin Lodévois. Et je pense que plantes et hommes apprécieraient une petite douchette.
Voilà, les rythmes de l'agriculture sont les rythmes du climat. Et passons maintenant à une magnifique chanson sélectionnée par Tanguy, qui était fan de l'école des fans.
J'étais pas particulièrement fan, mais hier je cherchais une petite musique pour faire lien et j'ai dit tiens, mais c'est sympa ces paroles. En fait, c'est un Québécois qui a été révélé par une émission bien connue de tous les Français, à savoir l'école des fans, et qui a fait un tube quand il était âgé de, je sais pas, j'ai revu la vidéo hier, il doit avoir 8 ans ce garçon, mais il a une très belle voix, il s'appelle Francis Bernier et sa chanson était toute destinée à notre émission Du bruit dans les feuilles, c'est Arbre mon ami.
Plus là.
Et voilà, on peut remercier Francis Bernier. Une vraie découverte pour ma part. Hein. On sourit parce qu'on a beaucoup rigolé à l'écoute.
Moi, j'ai beaucoup aimé la langue imaginaire. Non, c'est peut-être pas de la langue imaginaire. La langue arborée qui fait des chorus. Laï, la, la, enfin bref, c'était mignon. Ah, bon. On continue avec des choses un peu plus sérieuses. La chronique du verger, de ce mois-ci au verger. Que fait-on en juin au verger? Mais quelle surprise!
Oh ben, je pense que tout le monde a réalisé qu'on est à la meilleure période finalement du verger, à savoir la récolte. On a parlé de ce verger toute l'année et là on commence à récolter des fruits. Hein. Les cerises sont passées, puis les abricots ont commencé et puis les poires vont venir pour les plus précoces très bientôt. Sur le territoire, on a beaucoup de poires de la Saint-Jean. Ça fait partie des fruits qu'on a identifiés et qui sont très spécifiques au territoire, à savoir des poires qui mûrissent très tôt avant l'été. Donc les poires de la Saint-Jean viennent vite. Et puis alors après, ça ne s'arrête pas, c'est un festival, les fruits, jusqu'au mois de septembre. Je rappelle à ceux qui ne seraient pas adhérents de l'association que vous pouvez, avec Paysarbre, nous rejoindre. On a quelques vergers et il nous arrive de récolter
de
quelques
récolter.
Fruits.
Il nous arrive.
C'est-à-dire que l'arboriculture, c'est pas une science exacte et que les fruits, ça intéresse tout le monde, animaux et humains.
Voilà, pour préciser, donc, actuellement, on gère, entre guillemets, trois vergers différents, trois lieux différents, avec des fruits différents.
Oui, on gère trois parcelles à Paysarbre. Alors c'est un peu variant. Il y a certaines parcelles, on fait des commodas avec des propriétaires privés ou bien sûr du bien commun. Et puis on essaye d'accompagner ces vergers et en échange de notre travail, on a accès à la récolte. Voilà. Mais des fois, il y a des gens qui passent avant, que ce soit des oiseaux ou des humains. Et puis on n'utilise pas forcément de traitement non plus. Alors pour les cerises, les tardives, on va avoir du vert. Voilà, il y a des vraies questions qui se posent sur les récoltes. Mais au-delà de ça, voilà, le verger diversifié. Ce qui est formidable, c'est qu'on a toujours des fruits, quoi. Une année, c'est pas lui, c'est l'autre. Il y a une alternance dans les arbres fruitiers. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines années, l'arbre porte pas de fruits. Alors, on s'interroge beaucoup sur cette rythmique. Pourquoi est-ce que l'arbre, certaines années, donne des fruits et d'autres pas? Les modernes ont vachement travaillé, par exemple, à faire des variétés pour les exploitants agricoles qui font dans le verger et la production fruitière, d'avoir des variétés de fruits qui soient pas trop alternants. Mais en fait, la nature aime bien l'alternance. D'une part, ça va lui permettre de faire du bois certaines années. Et puis, ça lui permet aussi d'appauvrir ses prédateurs. Par exemple, chez les chênes, il y a des années où tous les chênes d'un peuplement vont pas faire de fruits. Et pour eux, c'est aussi une stratégie pour réguler leurs prédateurs et pour que les animaux qui se nourrissent de leurs fruits aient une année un peu de carence où ils vont pas pouvoir
exploser.
Donc voilà, il y a des stratégies végétales qui nous régulent. Il faut le savoir. Donc on est un peu victime de tout ça.
Intéressant. Et juste pour revenir sur les histoires de vergers, de Paysarbre, j'en profite pour faire une petite pub pour notre toute nouvelle page Facebook. Vous cherchez Paysarbre, c'est une page publique. Parce que en début du mois, on a sur deux vergers, donc la Mandraie qui est à Péguérolles et puis les Poiriers qui sont à Selles, on a fait des petits travaux d'entretien, de débroussaillage. Et donc vous pouvez retrouver toutes nos actus sur la page Facebook de Paysarbre, les travaux dans les vergers, les récoltes, les événements, les stages, etc. Facebook Paysarbre.
Merci pour ce petit moment communication.
Est-ce que c'est tout sur les récoltes et la poire de la Saint-Jean?
Est-ce que c'est tout? Non, vous dire que vous pouvez goûter la poire de la Saint-Jean cette année sur le verger qu'on a commencé à constituer à Selles, qui est un verger issu uniquement de la pratique de la greffe végétale sur porte-greffe sauvage, qui aujourd'hui a 3 ans et porte ses premiers fruits. Et la dernière fois, quand on est allé l'entretenir, j'ai vu quelques grappes de poire de la Saint-Jean. Ces poires sont mûres début juillet. Si vous vous promenez au bord du lac et que vous en trouvez une à votre goût, nous vous invitons, au nom de toute l'équipe de Paysarbre, à la cueillir et à croquer dans ce fruit et à apprécier sa saveur, sa fraîcheur en ces moments chauds.
Le verger de sel, c'est aussi un verger conservatoire. Donc il y a il y a toute une diversité de variétés qui ont été récoltées sur le territoire. Et moi, j'ai découvert qu'il existait des poires Williams noires.
Rouges.
Ouais, elles sont lit de vin. C'est assez marrant, c'est assez hallucinant. Et donc, si vous les cueillez, les fruits sont à votre disposition. Cueillez-les bien mûrs et n'abîmez pas les arbres.
Eh ben oui, ça va être un peu le propos. Pour la suite de cette émission, comme on était en petit comité, ah, j'ai privé Raphaël de sa cloche.
Oh, mais c'est pas grave, on peut faire sans.
On peut faire sans la cloche.
On est adaptable, très adaptable à Pays Arbres. Tu voulais nous parler d'un bouquin.
Ouais, qui m'a beaucoup marqué et qui est en train de marquer la pensée d'une manière plus générale. C'est un livre de philosophie, une fois n'est pas coutume, d'un Italien. Alors j'espère que je ne vais pas écorcher la prononciation de son nom. Moi, j'aurais tendance à dire Emanuele Coccia, qui a écrit un livre qui s'appelle « La vie des plantes, une métaphysique du mélange ». Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Je vais même aller jusqu'à vous en lire un extrait pour vous donner l'eau à la bouche, pour vous présenter un petit peu son travail de manière large. C'est un maître de conférences de philosophie. Lui, il étudie la philosophie. Et donc, il a essayé de ramener l'objet feuille, enfin les plantes d'une manière générale, dans l'objet d'étude philosophique. Et du coup, ça le conduit à reposer des bases de ce qui a concouru à fabriquer notre pensée moderne. Alors lui, il parle beaucoup de la cosmogonie et de cette façon qu'a le cosmos de s'organiser et de s'ordonner par le biais de l'énergie solaire et par le biais du travail des feuilles qui vont commencer à ordonner la matière pour créer de l'être.
C'est ça la cosmogonie ?
La cosmogonie, c'est l'ensemble du mouvement des astres dans l'ensemble de l'univers, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, okay.
Et donc, pour lui, voilà, la plante, c'est quelque part, va capter. Donc, c'est pour ça qu'en plus, ça correspond bien avec la thématique que j'ai annoncée en début d'émission, à savoir celle du 21 juin, qui est vraiment le moment le plus solaire de l'année. Et donc, c'est bien de ça qu'il parle Emanuele Coccia. C'est de ce soleil et de la capacité singulière qu'ont les arbres et toutes les plantes, par le biais de la photosynthèse, à ordonner ce fluide cosmogonique.
Mais c'est rare, non, les philosophes qui parlent de choses non humaines ?
Ben oui, d'une manière générale, encore une fois, de ce côté-là, comme du côté des sciences plus universalistes, la plante, elle est finalement pas étudiée depuis si longtemps, et du coup, elle n'est pas introduite dans les systèmes depuis si longtemps. Alors que il faudrait lui rendre honneur, dans le sens où elle est là depuis bien avant. Alors, les premières formes vivantes sont plutôt des formes aquatiques et animales, mais derrière, les premiers à avoir conquis et augmenté, finalement... Alors, lui, c'est tout ce qui est... Il parle de tout ça, Emanuele, dans son livre. Il dit, finalement, pour sortir de notre état liquide, où on avait toutes nos premières stratégies de vie, hein, cette fameuse soupe primitive, eh ben, les végétaux ont réussi à sortir le fluide originel pour l'installer partout ailleurs sur la planète. Finalement, c'est une extension de notre soupe primitive faite par la capacité des végétaux à créer du fluide et à créer du fluide loin de l'état complètement liquide. Et donc à créer une atmosphère et à créer le monde dans lequel on est. Donc,
vas-y, on t'écoute.
Non, je m'emporte un peu parce que j'essaie de vous faire une synthèse d'un livre qui finalement peut bien vous occuper tout l'été, je pense, si vous êtes à l'ombre et que vous avez le temps pour ça. C'est vraiment un livre, à mon avis, qui est bien pour meubler les siestes chaudes de l'été. Et donc je vous lis juste le début du
passage.
Deuxième chapitre qui s'appelle « L'extension du domaine de la vie ». Elles vivent à des distances sidérales du monde humain, comme la presque totalité des autres vivants. Cette ségrégation n'est pas une simple illusion culturelle, elle est de nature plus profonde. Sa racine se trouve dans le métabolisme. La survie de la quasi-totalité des êtres vivants présuppose l'existence d'autres vivants. Toute forme de vie exige qu'il y ait déjà de la vie au monde. Les hommes ont besoin de celles produites par les animaux et les plantes, et les animaux supérieurs ne survivraient pas sans la vie qu'ils s'échangent réciproquement grâce au processus d'alimentation. Vivre est essentiellement vivre de la vie d'autrui. Vivre dans et à travers la vie que d'autres ont su construire ou inventer. Il y a une sorte de parasitisme, de cannibalisme universel propre au domaine du vivant. Il se nourrit de lui-même, ne contemple que lui, en a besoin pour d'autres formes et d'autres modes d'existence. Comme si la vie dans ses formes les plus complexes et articulées n'était jamais qu'une immense tautologie cosmique. Elle se présuppose elle-même, ne produit qu'elle-même. C'est pourquoi la vie semble ne s'expliquer qu'à partir d'elle-même. Les plantes, elles, représentent la seule brèche dans l'auto-référentialité du vivant. En ce sens, la vie supérieure semble n'avoir jamais eu de rapport immédiat au monde sans vie. Le premier environnement de tout vivant est celui des individus de son espèce, voire d'autres espèces. Seulement, les plantes, elles, contreviennent à cette règle. d'auto-inclusion. Elles n'ont pas besoin de la médiation d'autres vivants pour survivre. Elles ne la désirent pas. Elles n'exigent que le monde, la réalité dans ses composants les plus élémentaires. Les pierres, l'air, l'eau et la lumière. Elles voient le monde avant qu'il ne soit habité par des formes de vie supérieures. Elles voient le réel dans ses formes les plus ancestrales, ou plutôt, elles trouvent de la vie là où aucun autre organisme n'y parvient. Elles transforment tout ce qu'elles touchent en vie. Elles font de la matière, elles font de l'air, de la lumière solaire, ce qui sera pour le reste des vivants un espace d'habitation, un monde. L'autotrophie, c'est le nom donné à cette puissance de Midas alimentaire, celle qui permet de transformer en nourriture tout ce qu'on touche et tout ce qu'on est. Ce n'est pas simplement une forme radicale d'autonomie alimentaire, c'est surtout la capacité qu'elles ont de transformer l'énergie solaire dispersée dans le cosmos en corps vivant. La matière difforme et disparate du monde en réalité cohérente, ordonnée et unitaire. Si c'est aux plantes qu'il faut demander ce qu'est le monde, c'est parce que ce sont elles qui font le monde. Voilà, ça c'est l'introduction du deuxième chapitre. Donc ça nous emmène très très loin. Et finalement, moi, ça m'a fait penser aussi à tout ce qu'on a traversé pendant cette petite fête de l'arbre du mois de février, où finalement, en partant de l'arbre, c'est difficile de pas à un moment plonger dans une forme de métaphysique, quoi.
J'étais en train de me dire, enfin, j'y connais pas grand-chose en religion et en livres religieux, mais si j'ai bien compris, Dieu créa le monde. Et qui est-ce qu'il a créé en premier? Il a pas créé un humain? Il se plante tout à fait, non? Tu sais, il a créé le monde en 7 jours, mais qu'est-ce qu'il a, il a créé quoi en premier? Enfin bref, il faudrait qu'on ait quelqu'un qui puisse nous...
On est dans la légende, alors bon, le jardin d'Éden existait aussi dans la Bible. Hein.
Il existait avant tout le monde.
Ah, donc il y a quand même
une sorte de réalité.
Oui, de réalité dans la succession végétale, quoi. Alors ce livre, il parle autour de plein de chapitres. Là, je vous ai lu un bout du prologue. Et ensuite, il a trois grandes théories. Il énonce les théories de la feuille, donc cet objet de la transformation. Cet objet où finalement on récupère l'énergie solaire pour faire de l'énergie du lien. Hein, c'est finalement pour créer le lien que la feuille se sert de l'énergie solaire. C'est pour créer des chaînes complexes ordonnées. Donc il parle de ça dans la théorie de la feuille, et il développe ensuite avec la théorie de la fleur, où là c'est encore plus extraordinaire, parce que finalement un arbre par exemple n'est conçu que pour faire des feuilles, et tout le reste n'est que transformation, et le seul organe de la plante c'est la feuille, et la fleur c'est une métamorphose de plusieurs organes, de l'ensemble des organes, pour créer la fleur. Donc il a toute une théorie de la fleur où il explique que la fleur c'est le lieu du logos, la raison, quoi. Donc c'est l'endroit où le végétal réfléchit à son avenir en fonction de tout ce qu'il a déjà vécu. Donc ça c'est la théorie de la fleur, et puis il a une théorie de la racine. Donc voilà, ces trois grandes théories sont réunies dans ce livre qui est assez dense, mais en même temps il n'y a pas de mots non plus, enfin il y en a peut-être deux trois où moi je suis allé ouvrir un dictionnaire parce que quand même, mais en même temps, des fois je me suis cassé le nez sur d'autres livres soi-disant philosophiques où finalement ces spécialistes utilisent tout un fratras de trucs où on a du mal à rentrer. Ben lui, il évite un petit peu cet écueil, et je trouve que c'est très accessible pour un livre qui quand même nous emmène loin, si je puis dire.
Bah, et en plus, c'est peut-être parce qu'il parle d'un sujet qui est somme toute très concret, et du coup moi je suis en train de me dire, tiens, en fait le végétal est un média de la vie, et on n'en a pas tant conscience que ça, je trouve.
Oh oui, le végétal avec ses alliés que sont les champignons, ce sont des sacrés médias. On compare souvent la trame de champignons du sol avec la toile Internet. Ben, comme quoi, voilà. Même ce qu'on croit avoir inventé, on l'a toujours copié, quoi.
On a souvent copié la nature, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, ça me donne bien envie de le lire. Et tiens, juste pour le rappeler, donc, c'est Emmanuel Coccia, La vie des plantes, une métaphysique du mélange. C'est Bibliothèque Rivage. Et je sais que vous pouvez le trouver chez Eric d'un point un trait.
Eric, un point un trait, notre libraire, l'eau des voix.
Bon, alors, on n'a pas de chasseur de son cette semaine. Voilà, on est passé déjà un peu en mode été, en mode light.
Oui, nous aussi, on est presque en vacances. Alors, juste pour... on n'a pas vraiment de chasseurs de son aujourd'hui. Juste pour dire qu'on a pris énormément de plaisir toute l'année à venir partager avec vous au micro nos expériences, nos retours, nos joies, nos petites histoires. On était très contents de passer cette ce bout d'année avec vous et on réfléchit très sérieusement à reprendre du bruit dans les feuilles à la rentrée. Pendant l'été, on va quand même garder le créneau, donc on mettra, ça sera soit des historiques, peut-être une interview aussi issue de la petite fête de l'arme. Donc gardez quand même l'idée du rendez-vous, il y aura, on sera là.
Un programme d'été.
Il y aura un programme d'été.
Et donc on vous retrouve en septembre, on l'espère. Bon pied, bon œil.
On espère, franchement, on va y travailler à renouveler cette énergie-là. Peut-être à essayer de faire venir d'autres acteurs du territoire qui travaillent autour des feuilles aussi.
Des invités,
petites feuilles,
ouais.
Et des grandes feuilles, des feuilles des livres et des feuilles des arbres.
Et donc c'était, c'est un peu un non-agenda, une non-chronique de chasseurs de sons. L'agenda c'est ça, c'est une petite pause estivale, on reprend des forces, on prend des congés, on va manger les fruits sur les arbres, on va se nourrir de rencontres et de nouveaux lieux, de nouveaux visages. On revient en septembre avec tout un programme de stages qui va revenir. En attendant, vous pouvez nous trouver, nous retrouver, nous suivre sur Facebook donc. Facebook Paysarbre, le nouveau site tout nouveau, tout beau de paysarbre.org qui a été fait par Tanguy et avec la grande aide de Safia pour nous suivre malgré tout dans l'été.
Et on est sur Twitter aussi, comme on parle de réseau.
Oui.
Nous sommes sur Twitter depuis peu également. Donc nous aussi, on s'imprègne du réseau global et international. Et on vous laisse ce bel été. Je voudrais remercier chaleureusement toute l'équipe de Radio Lodev qui nous a accueillis et qui nous a ouvert ses portes pour que ce projet ait lieu. Sans eux, bien évidemment, ce serait pas possible. Soutenir ces petites radios associatives, c'est vraiment soutenir la voix de tous pour tout le monde. C'est primordial. Radio Lodev, c'est pareil. C'est une petite aventure très humaine. Et puis, si vous êtes auditeur, vous avez remarqué qu'il y a des grandes plages, des fois, où il se passe que de la musique. Quelque part, cette radio, elle est à vous. N'hésitez pas, si vous avez des idées, des projets qui peuvent rencontrer les sons et la radio, je suis sûr que leurs portes seraient ouvertes pour d'autres que nous. Voilà, un grand merci à eux pour leur accueil et leur suivi. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe de Paysarbre qui nous ont aidés toute l'année à fabriquer cette émission. Voilà, on va peut-être arrêter là avec les remerciements. Un petit dernier quand même, merci au soleil de coordonner tout ça et d'être le grand organisateur cosmologique. De tout ça. Voilà, c'était pour faire un joli mot pour finir.
Et pour faire une très jolie transition avec notre dernier tube de l'été, des Négresses Vertes, qui s'appelle très justement Voilà l'été.
Voilà, un bon solstice à vous, une bonne fête de la musique peut-être ce soir si vous sortez. Bon courage à tous les exploitants agricoles, à tous les travailleurs, vignerons, salariés du domaine agricole qui travaillent sous le soleil. Et on sait qu'on en chie des fois et on est bien content de trouver l'ombre d'un grand arbre. Merci à tous de votre écoute. Salut, salut.
À bientôt.
Transforme en phobie. Le métro, c'est tout devient purulent dans ses souliers. Le bas. passagers, abrutis. À Guy Doigté qui s'exprime violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. C'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a basourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui se font chier dans midi. Tous ces torches qui vont cuire dans l'enjeu. Tous ces noyés, la mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri.